Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 24 juin 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, les titres. En RDC, Vital Kamerhe, un proche du président Tshisekedi, a été totalement acquitté. Ouverture ce vendredi à Kigali du sommet du Commonwealth. En pleine polémique sur l'accord d'expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda. Sommet de la CEDEAO du 3 juillet, le président Alassane Ouattara et son homologue nigérien Mohamedou Bazoum en visite à Abidjan tentent d'harmoniser leurs points de vue. En prélude à ce sommet, nouvelle mission du médiateur ouest-africain Goodluck Jonathan au Mali. Il est arrivé hier à Bamako. Au Togo, nouvelle interdiction d'un meeting de l'opposition qui était prévu pour samedi. L'Union européenne reconnaît à l'Ukraine le statut de candidat, une étape hautement symbolique près de 4 mois après l'invasion russe. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a été totalement acquitté hier. En appel, a affirmé son avocat, l'ancien directeur de cabinet et allié du président Félix Tshisekedi avait été condamné à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars. Le point avec Eric Manirakidza.
Mon client Vital Kamerhe a été totalement acquitté aujourd'hui par la cour d'appel. Il n'y a pas de preuve contre lui. C'est définitivement fini avec cette affaire, a déclaré son avocat, Maître Jean-Marie Kabengela. Vital Kamerhe avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers. En décembre, la Cour de cassation lui avait accordé une libération conditionnelle pour raison de santé, lui permettant d'effectuer un déplacement en France. La même cour a cassé la décision de condamnation à 13 ans de prison prise par la cour d'appel en juin 2021, demandant à la même cour, constituée d'autres juges, de rejuger l'affaire. Lors des audiences, ses avocats avaient dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2023.
Eddy Issango s'est entretenu avec un des avocats de Vital Kamerhe. Ce sera en seconde partie de cette édition. Un sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth se tient ce vendredi et samedi à Kigali. Cette rencontre a lieu en pleine polémique sur l'accord d'expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda. Ce pays a été critiqué en amont du sommet par 23 ONG de défense des droits humains pour sa politique dans ce domaine. Le prince Charles y représente sa mère, la reine Elisabeth II, chef du Commonwealth. Nanit Talani fait le point.
Des entretiens sont prévus entre le prince Charles et le premier ministre Boris Johnson, responsable du projet d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés clandestinement au Royaume-Uni. Le prince Charles est opposé à ce projet qu'il a qualifié en privé de consternant et que l'Église anglicane considère comme immoral. De nombreuses ONG de défense des droits humains et l'ONU ont, de leur côté, condamné. M. Johnson a, lui, défendu dès jeudi au Rwanda son plan en affirmant « Ce que les critiques du royaume doivent comprendre, c'est que le Rwanda a connu une transformation totale au cours des 2 dernières décennies. Le premier avion qui devait transporter des migrants à Kigali a été bloqué à la dernière minute, le 14 juin, par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement de M. Johnson a présenté mercredi au Parlement un projet de loi permettant d'outrepasser la Cour. Par ailleurs, le Togo et le Gabon devaient rejoindre le Commonwealth malgré l'absence, comme le Rwanda, de liens historiques avec le Royaume-Uni.
Le président nigérien Mohamed Bazoum en visite officielle hier à Abidjan et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont souhaité harmoniser leur point de vue avant le sommet de la CEDEAO le 3 juillet à Accra au Ghana. La question des sanctions contre le Mali sera au cœur des débats, tout comme la conduite à tenir à l'encontre du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, qui ont connu des putschs ces dernières années. Les dirigeants ouest-africains sont divisés entre partisans de la fermeté et avocats du compromis, à l'heure où les sanctions accentuent la crise économique et sociale au Mali et ont un impact sur les économies de ses voisins. En prévision de ce sommet, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali est arrivé hier à Bamako pour de nouvelles discussions sur les moyens de résoudre les différends entre la CEDEAO et la junte au pouvoir, Abdourahmane Dia.
L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, va rencontrer différentes autorités maliennes dans le cadre de la recherche d'une solution avant de repartir vendredi. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a confirmé son arrivée sans plus de précision. Goodluck Jonathan a entamé cette énième mission au Mali 10 jours avant un nouveau sommet de la CEDEAO prévu le 3 juillet à Accra. Ce sommet devrait décider de maintenir ou de lever les lourdes sanctions commerciales et financières imposées le 9 janvier au Mali. L'organisme régional conditionne la levée de ces sanctions à la présentation d'un calendrier électoral acceptable à ses yeux. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué le 6 juin un décret affirmant que la transition se poursuivrait jusqu'en mars 2024. Le président sénégalais Macky Sall a indiqué que ces 24 mois faisaient déjà l'objet de discussions au sein de la CEDEAO.
Au Togo, le gouvernement a une nouvelle fois interdit, pour des raisons sécuritaires cette fois-ci, un meeting de l'opposition prévu samedi à Lomé pour dénoncer notamment ce qu'elle a appelé la vie chère, la mauvaise gouvernance et l'impunité. Le ministre de la Sécurité a évoqué dans un communiqué un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant. Une allusion à l'extrême nord du Togo, frappé depuis le début de l'année par 2 attaques djihadistes, les premières depuis que l'armée y est déployée, pour faire face à la menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin. L'opposition a décidé de ne pas braver l'interdiction et a décidé donc de tenir son meeting le 16 juillet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants des 27 ont reconnu hier à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a évoqué un moment historique en pleine offensive russe, Mohamed Oumfa.
La journée d'aujourd'hui marque une étape cruciale sur votre chemin vers l'Union européenne, a déclaré Charles Michel, félicitant le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente moldave Maia Sandu. La Géorgie, qui aspire à rejoindre l'UE, devra encore attendre pour obtenir ce statut. Les dirigeants ont suivi les avis de la commission rendue la semaine dernière sur ces 3 ex-républiques soviétiques. Plusieurs États membres ont néanmoins averti que les Ukrainiens ne devaient pas se faire d'illusions sur une adhésion rapide. Le Français Emmanuel Macron a estimé en mai qu'une adhésion de Kiev prendrait des décennies. Cette décision, aussitôt saluée par Kiev, marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion. La prochaine étape, l'ouverture de négociations officielles, va nécessiter l'unanimité des 27. Les négociations ne sont toujours pas ouvertes pour la Macédoine du Nord et l'Albanie, candidates depuis 2005 et 2014. Ces pays ont d'ailleurs exprimé hier leur frustration sur la lenteur de leur processus d'adhésion.
Les autorités de l'État de New York, parmi les plus strictes des États-Unis sur les armes à feu, ont dénoncé l'arrêt de la Cour suprême qui consacre le droit des Américains à pouvoir porter des armes hors de chez eux. Rosine Munizero.
La plus haute juridiction du pays a invalidé les restrictions au port d'armes prévues par une loi de l'État de New York. La gouverneure de l'État, Kathy Hochul, a déploré un jour sombre après l'arrêt de la Cour suprême qui consacre le droit des Américains à sortir armés de leur domicile. Il est scandaleux qu'ils aient supprimé des restrictions censées sur les armes à feu, a déclaré la chef de l'exécutif de l'un des États américains les plus stricts en matière de port d'armes à feu. Le maire de la ville de New York, Eric Adams, dit redouter que cet arrêt ne vienne alimenter une vague de violence par armes à feu. Plusieurs habitants de Manhattan ont aussi critiqué la décision. Par contre, le puissant lobby des armes à feu, la NRA, a salué une victoire. La National Rifle Association sur Twitter dit que la Cour suprême a affirmé que le droit à porter des armes ne s'arrête pas à la porte du domicile.
Pour sa part, le Sénat américain a adopté jeudi soir par 65 voix contre 33 une proposition de loi soutenue par des élus des deux principaux partis censés lutter contre la vague de violence armée qui sévit aux États-Unis, avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. La Minute Écho, Nathalie Barge.
Au Rwanda, la première usine de vaccins à ARN messager d'Afrique a été inaugurée hier à Kigali par le président Paul Kagame. Pour produire des traitements contre la COVID-19 et d'autres maladies d'ici 2024, le laboratoire allemand BioNTech, qui va embaucher et former une centaine de personnes pour cette usine, va en installer deux autres en Afrique du Sud et au Sénégal. Au Cameroun, les travaux de remise à niveau du terminal à conteneurs du port autonome de Douala ont été lancés. Ils devraient s'étendre sur deux mois pour un coût de 473 millions de francs CFA. L'objectif est d'améliorer la fluidité et la sécurité des opérations et d'accueillir un volume plus important de marchandises. Le gouvernement éthiopien a appelé l'Union européenne à revoir sa position en faveur du Caire concernant le grand barrage sur le Nil. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a assuré hier que l'Éthiopie désirait coopérer avec les pays riverains du Nil. L'objectif de production initiale de 6 500 MW a été revu à la baisse à 5 000 MW.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Borussia Dortmund sur le point de recruter Sébastien Haller.
Oui, l'attaquant international ivoirien de l'Ajax Amsterdam est en Allemagne pour faire un examen médical avant de s'engager avec le Borussia Dortmund. Selon le quotidien allemand Bild, Sébastien Haller est sur le point de signer un contrat de 4 ans avec le club, deuxième de Bundesliga derrière le Bayern Munich, pour un montant de 31 millions d'euros, bonus compris. Le joueur de 28 ans remplacerait Erling Haaland, qui a rejoint Manchester City en mai dernier pour 60 millions d'euros. Haller s'est illustré la saison dernière en Ligue des Champions avec l'Ajax, inscrivant 11 buts en 8 matchs avant l'élimination du club néerlandais en 8e de finale.
Mondial 2022, la FIFA porte à 26 le nombre maximum de joueurs par sélection.
Excite la liste des 23, les pays qualifiés pour le Mondial Qatar 2022 sont autorisés à avoir une liste de 26 joueurs, annonce la FIFA, pérennisant ainsi cette mesure de flexibilité introduite pendant la pandémie de COVID-19. La FIFA a expliqué avoir adopté cette mesure dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde aura lieu, à savoir en novembre-décembre et non pendant l'été. L'UEFA a adopté un élargissement similaire des listes l'an dernier avant l'Euro face au risque de contamination au COVID-19 et de quarantaine qui menaçait de dépeupler les effectifs. 5 pays africains sont qualifiés pour le Mondial 2022. Il s'agit du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, de la Tunisie et du Maroc.
Fin de la crise dans le basketball nigérian.
Oui, le gouvernement nigérian a annulé sa décision d'interdiction à toute équipe de basket du pays de participer à des compétitions internationales pendant 2 ans. Les autorités avaient pris cette décision en mai dernier suite à la crise de leadership au sein de la famille du basket nigérian. En janvier, la Fédération nigériane de basketball a organisé 2 élections distinctes au cours desquelles le président sortant, Moussa Kida, est sorti vainqueur dans l'une, tandis que Igoché, Marc, a été élu dans l'autre. Le 12 mai, le gouvernement avait alors annoncé le retrait immédiat du pays de toutes les compétitions internationales de basketball. Ce retrait a coûté à l'équipe féminine sa place à la Coupe du Monde FIBA de cette année en Australie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, un allié et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a été donc totalement acquitté dans un deuxième procès en appel pour le détournement de près de 50 millions de dollars alloués aux travaux de construction pour les 100 premiers jours du chef de l'État congolais. Eddy Isango a joint à Kinshasa un des avocats de Vital Kamerhe, maître John Kaboto.
La décision de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe est tombée. La composition s'est prononcée allant dans le sens d'acquitter totalement mon client, M. Vital Kamerhe, de toutes les poursuites, de toutes les infractions mises à sa charge. Et voilà que, en ces jours, M. Vital Kamerhe est totalement libre et il va circuler en homme libre.
C'est donc là le verdict final de cette Cour après l'érigé par la Cour de cassation de la première décision de cette même Cour d'appel de Gombe?
Naturellement, messieurs les journalistes, vous vous souviendrez qu'il y a de cela deux mois que la Cour de cassation avait procédé à l'examen de notre pourvoi en cassation. Et après examen minutieux, la Cour a eu à casser la décision qui condamnait M. Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés. Et la Cour de cassation avait renvoyé devant la même Cour d'appel de Kinshasa Gombe, qui devrait être autrement composé, et c'est ce qui fut fait. C'est cette cour autrement composée qui nous a donné la décision acquittant M. Vital Kamerhe et tout ce qui était dans les dossiers de 100 jours.
Vous dites que tout ce qui était dans l'affaire de 100 jours ont été acquittés, mais quelles sont les raisons évoquées par le juge pour les acquitter?
Les raisons sont simples et simplistes, c'est-à-dire les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles on poursuivait notre client Vital Kamerhe n'ont pas été établies. Et le premier juge avait très mal dit les droits avec une certaine légèreté. Voilà que le juge de vérification, après avoir vérifié, il a trouvé que non, les droits étaient mal dits. Il fallait rétablir M. Vital Kamerhe dans ses droits, c'est-à-dire d'innocence. On vient d'éprouver devant le monde entier que M. Vital Kamerhe, dans les dossiers des 100 jours, n'y était pour rien. Alors voilà, monsieur les journalistes, il était simple de constater que non, monsieur le président Kamerhe n'avait rien trempé ses mains dans les dossiers de 100 jours qui concernaient la construction de maisons préfabriquées.
Quelle incidence cet acquittement peut avoir sur le plan politique? M. Vital Kamerhe était, avant les procès, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Va-t-il répandre son fauteuil et pour les prochaines séances électorales?
Vous êtes sans ignorer que M. Vital Kamerhe, c'est vraiment un animal politique. Ce qui importait à nous autres, c'était d'abord les laver, afin que son casier ici soit vraiment blanchi. Aujourd'hui, la grande victoire réside dans le sens que le casier judiciaire de M. Vital Kamerhe est vraiment vierge. C'est un politicien qui peut briguer à tout poste politique à venir. Vous êtes sans ignorer que non, M. Vital Kamerhe, dans les décisions antérieures, il lui a été refusé même d'exercer au moins ses droits politiques. Mais aujourd'hui, il revient sur la scène politique avec force. Et la conséquence concernant son fauteuil autrefois de directeur des cabinets des chefs de l'État, M. Vital Kamerhe n'est pas né seulement pour demeurer directeur des cabinets. M. Vital Kamerhe, depuis sa jeunesse, il a eu à briguer pratiquement tous les postes dans ce pays. Et les postes lui restant, c'est pratiquement la magistrature suprême.
C'était Maître John Kaboto, avocat de Vital Kamerhe.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Togo, la réparation des victimes des violences politiques de la période de 2058 à 2005 se poursuit. Depuis 2017, plus de 20 000 personnes ont été indemnisées de manière De diverses manières, par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Cette semaine, une nouvelle vague de victimes va rentrer dans ses droits, de Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
Au centre des jeunes du quartier d'Amadaroumé dans la capitale, Jules a le sourire aux lèvres. Il vient de recevoir son chèque pour avoir subi des violences lors des violences post-électorales de 2005 qui avaient entraîné des centaines de morts et de blessés après l'élection du président fort Gnassingbé.
Il y avait contestation de la population à Kodjoviakopé pour d'autres populations qui étaient mécontents. Les gens nous jugeaient du parti du pouvoir. Ils ont pris notre maison d'assaut. Ils ont lapidé. Et il y a eu un projectile sur la tête. Et au moins, ils ont réparé les dommages. Un tiers vaut que tu l'auras quand même.
Bioba Komlan, la soixantaine aujourd'hui, est moins enthousiaste. Licenciement abusif, prison, compte bloqué et vidé, carrière brisée, exil. Il estime que son indemnisation n'est pas à la hauteur des violences subies.
Ça me plaît qu'ils ont pris conscience qu'ils ont mal fait à autrui, mais seulement, je ne sais pas, hein, tout dossier, c'est pas la même indemnisation, quoi. À ma sortie, j'ai dû payer 5 millions de poussières pour ma pension, quoi. 8 ans à la maison. Ils sont allés vider mon compte. Mais si on me donne 1 million aujourd'hui, non.
Au Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, on comprend cette déception. Mais on insiste sur le symbolisme de la réparation. Claudine Onjo-Ahianyon est la vice-présidente de cet organisme.
Lorsqu'il s'agit de la réparation d'un être humain, rien ne peut suffire. Même les milliards, même tout le matériel, ça ne peut pas suffire. C'est juste le symbolisme qu'on utilise pour dire à la victime que nous nous excusons, nous souffrons avec vous.
Dans certaines localités, le symbolisme s'est réalisé par des réalisations pour la communauté. À Djeréouye, village situé dans la préfecture de Logou, à 300 km de la capitale, les habitants ont choisi une école comme symbole de réparation et de réconciliation entre eux. Obiam Komlan Dodji, le directeur de l'école.
Vous savez, l'école a rassemblé beaucoup d'ethnies. Et ce n'est pas l'école que cette réparation peut être possible. Et avec l'école, on va leur apprendre la tolérance, le pardon. C'est ça qui a fait qu'ils ont préféré qu'on construise l'école.
Depuis 2017, le gouvernement a débloqué près de 25 milliards de francs CFA pour les réparations diverses. Officiellement, il reste environ 20 000 personnes à indemniser. Kossi Wosu, Lomé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Niger, après des années d'interdiction, la culture et la commercialisation du poivron ont été réautorisées dans la région de Diffa, frappée par les attaques de Boko Haram depuis 2015. C'est en effet la principale activité économique de la région. 5 ans après cette réautorisation, la reprise est toujours timide. C'est le constat de notre correspondant Abdulrazak Idrissa, qui s'est récemment rendu sur place. Son reportage.
Belle ambiance en ce mardi, jour du marché hebdomadaire de Diffa. Au comptoir du poivron, vendeurs et acheteurs discutent les prix, tous heureux de se retrouver ici depuis quelques années à la faveur de la levée de l'interdiction de la culture et de la commercialisation de ce qui est appelé ici l'or rouge. Le jeune producteur, Malam Adam Hari, vient juste d'écouler le stock qu'il a apporté. Malgré sa joie, il se souvient des moments difficiles qu'il a traversés au plus fort de la crise sécuritaire. À l'époque, si on t'aperçoit avec un sac de poivrons, c'était comme une bombe. Nous avons vraiment souffert. Nous sommes restés sans rien. C'était très difficile. Mais maintenant, il faut le reconnaître, ça va. Nous travaillons nos champs et nous aidons les parents. Nous sommes très contents, Dieu merci. Reprise, certes, d'une activité considérée comme la principale dans cette région, mais reprise timide depuis bientôt 5 années, fait remarquer Adamou Adoum, un des responsables du comptoir du Poivron.
On est en train de reprendre ça petit à petit. Jusqu'à maintenant, vous savez qu'il y a assez de, comment dirais-je, les villes, on n'a pas pu le retourner pour faire les travaux. Mais avec l'État maintenant, il est en train de voir comment remettre tous les gens là pour faire les activités du Poivron ici dans la région de Béthi.
Donc ça n'a pas atteint le niveau que vous espérez?
Oui, ça n'a pas atteint le niveau qu'on espérait. Mais cette année, on espère que ça dépasse même pour l'année passée. C'est en train de le reprendre. Vous voyez, les camions sont là. Ils sont en train de faire leur marchandise pour amener aux Zender. Jusqu'au Niamey, vous voyez, les véhicules sont là.
Chaque semaine, plusieurs véhicules sont chargés au marché de Diffa pour ravitailler les autres régions du pays. Une partie est aussi destinée au Tchad et au Nigeria voisins. Les exportateurs mènent leur commerce sans grande difficulté. C'est vrai que maintenant, il y a un changement. Nous l'avons constaté nous-mêmes. Même si le marché n'est pas comme auparavant, nous parvenons à mener nos activités, à le transporter jusqu'au Nigeria, jusqu'au Tchad. Nous gagnons notre vie, Dieu merci, voilà, nous mangeons, nous buvons. Même les plus faibles peuvent subvenir à leurs besoins et nourrir leur famille. Nous disons vraiment Dieu merci. La culture et la commercialisation du poivron à Diffa avaient été interdites par les autorités nigériennes au début des incursions de Boko Haram en 2015. La filière qui drainait des milliards de francs CFA par an financerait les activités de la secte Boko Haram selon les autorités. Depuis, elles les ont réautorisées au grand plaisir des populations du Manga. Abdul Razak Idrissa, de retour de Diffa, pour VOA Afrique.
Le conflit en Ukraine, qui en est à son quatrième mois, a déclenché une flambée des prix dans les quatre coins du monde. Mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il va prendre des mesures pour tenter d'atténuer cette spirale de hausse des coûts. Les dirigeants du G7 et de l'OTAN se réunissent la semaine prochaine en Europe pour 2 sommets clés. Reportage d'Annie Powell, récit d'Eric Manirakidza.
Le président Joe Biden dit qu'il comprend que personne n'aime dépenser plus pour des produits essentiels comme le carburant et la nourriture, mais que les hausses successives de prix douloureuses sont le résultat inévitable d'un conflit brutal à l'autre bout du monde. L'assaut continue du président russe Vladimir Poutine contre l'Ukraine.
Nous avons coupé l'importation du pétrole russe aux États-Unis et nos partenaires européens ont fait de même, sachant que le prix de l'essence allait augmenter. Nous aurions pu fermer les yeux sur les agissements meurtriers de Poutine et le prix de l'essence n'aurait pas connu la flambée qu'il a connue. Je pense que cela aurait été une erreur.
Les prix de l'essence ont augmenté à l'échelle mondiale dans le sillage du conflit, en raison notamment des sanctions sévères imposées au pétrole et aux biens russes, et de la pandémie mondiale qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et la productivité. M. Biden rencontrera les dirigeants de l'Arabie Saoudite en juillet dans le but de persuader le cartel mondial du pétrole d'augmenter l'offre. Au niveau national, il demande au Congrès de suspendre la taxe fédérale sur l'essence et aux États de suspendre leur taxe sur les carburants.
Ce que l'administration propose, bien sûr, c'est un autre gadget, un autre pansement et quelque chose qu'elle sait être mort à l'arrivée au Congrès.
Poutine ne semble pas non plus vouloir reculer.
Nous sommes fiers que pendant l'opération militaire spéciale, nos combattants agissent avec courage, professionnalisme, comme de véritables héros. Les soldats russes de différentes nationalités combattent côte à côte dans cette unité, dans la foi de la justesse de leur cause, Dans l'énorme soutien populaire que nos soldats ressentent réside la grande force invincible de la Russie.
La Maison-Blanche dit que la hausse des prix n'est pas la seule conséquence de la guerre. La Russie bloque également les exportations de céréales ukrainiennes, provoquant des chocs dans le monde entier. Jusqu'en Afrique. Ce sujet sera probablement abordé lorsque les dirigeants du G7, les sept nations les plus riches du monde, se réuniront la semaine prochaine en Allemagne.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.